de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs et auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, pour le moment de fin d'année, nous allons vous présenter un programme spécial de Kaleidoscope Général de la deuxième partie et un certain nombre de programmes tels que le magazine culturel L'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le Kaleidoscope Général de la deuxième partie. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix d'Indonésie, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Toujours dans l'événement Kaleidoscope 2022, nous commençons par les événements en juillet. Le 1er juillet 2022, le ministre indonésien du Commerce, M. Zulkifli Hasan, et le ministre de l'Économie des Émirats Arabes Unis, Abdullah bin Tuk Al-Mahri, ont signé à Abu Dhabi l'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et les Émirats Arabes Unis. La signature de cet accord de partenariat est un moment historique parce que c'est la première fois que l'Indonésie a un accord commercial avec un pays de la région du Golfe. Cet accord est la porte d'entrée de l'Indonésie vers les Émirats Arabes Unis, qui est une plaque tournante pour l'augmentation des exportations vers des pays de destination non traditionnels, tels que la région du Golfe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie du Sud. Le 7 juillet, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, et la ministre britannique des Affaires étrangères, Elizabeth Truss, ont discuté de la question de la sécurité alimentaire et énergétique. Lors d'une réunion bilatérale tenue en mars de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 à Nusa Dua, Bali, concernant la coopération bilatérale, les deux ministres se sont engagés à renforcer la coopération dans le secteur des énergies renouvelables. La Grande-Bretagne se déclare prête à soutenir l'Indonésie dans le développement de l'énergie éolienne et solaire. Le 8 juillet, la ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a souligné que le G20 devait être une solution à divers défis mondiaux. La ministre Retno, lors de l'ouverture officielle de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 à Nusa Dua, Bali, a mentionné les problèmes auxquels le monde est confronté aujourd'hui, entre autres la crise alimentaire et énergétique, déclenchée par la guerre en Ukraine et la pandémie de COVID-19. Le 28 juillet, les gouvernements de l'Indonésie et de la Malaisie ont signé une déclaration conjointe concernant le placement et la protection des travailleurs migrants indonésiens dans le secteur domestique en Malaisie. La signature a été effectuée par la ministre indonésienne de la main-d'œuvre, Mme Ida Fauzia, et le ministre malaisien des ressources humaines, M. Saravanan Murugan. Les deux parties ont convenu de reprendre le recrutement et le placement des travailleurs migrants indonésiens en Malaisie à partir du 1er août 2022. Nous passons au mois d'août. Le ministère du Tourisme et de l'Économie Créative a organisé la conférence et le Festival international du tourisme de bien-être 2022 afin de promouvoir le tourisme de santé en Indonésie. Le ministre du Tourisme et de l'Économie Créative, M. Sandiaga Uno, a déclaré que l'événement qui se tenu à Solo, Java Central, du 5 au 7 août 2022, était devenu un espace créatif pour présenter les produits de santé indonésiens. Le 29 août, la Banque d'Indonésie et l'Autorité monétaire de Singapour ont convenu d'initier une coopération de paiement transfrontalière basée sur un code QR entre l'Indonésie et Singapour. Le gouverneur de la Banque d'Indonésie, M. Peri Warjio à Jakarta, a déclaré que cette coopération serait lancée en semestre de 2023. Cette collaboration devrait permettre aux utilisateurs d'effectuer des paiements de détail instantanément, en toute sécurité et efficacement, en scannant le code QR réponse indonésien standard ou CRIS affiché par les commerçants. Nous passons au mois de septembre. Le 5 septembre, le président indonésien Joko Widodo a reçu la visite du président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr., au palais présidentiel de Bogor, Java Occidental. Marcos a choisi l'Indonésie comme premier pays qu'il visiterait lors de sa visite d'État en tant que président des Philippines. Le président Joko Widodo et le président Marcos Jr. ont assisté à la signature d'un certain nombre de protocoles d'accord. Du 7 au 9 septembre 2022, le ministère de la Planification de Développement National a tenu une réunion ministérielle de développement du G20 à Belitung, dans la province de l'archipel de Bangka Belitung. Le ministre de la Planification de Développement National, Suharto Monoarfa, a déclaré que la réunion a confirmé l'engagement et la pertinence du G20 en tant que principal forum de coopération économique internationale. Cette collaboration vise à réduire l'inégalité de développement et réduire la pauvreté mondiale et atteindre une croissance de développement durable via le financement mixte. Le 12 et 13 septembre, l'Indonésie a tenu une réunion du G20 sur la culture au niveau des autres fonctionnaires et des ministères à Magelang, Java Central. Les résultats de cette réunion ont invité les pays du G20 à travailler ensemble pour restaurer le secteur culturel touché par la pandémie. De plus, cette rencontre est la base du développement durable. Dans son communiqué de presse, le ministre de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie, M. Nadiem Makarim à Magelang, a déclaré « L'engagement a été énoncé avec succès dans le résumé du président ou un résumé des présidences de science ».
Chers auditeurs, passons à octobre 2022. Le 1er octobre 2022, une bousculade s'est passée au stade Kanjuruhan, à Malang, dans l'est de Java. Cet incident fait suite à la défaite de l'équipe locale Arema face à Persebaya, Surabaya. Cet incident a fait 135 morts et 583 blessés. Le 6 octobre, le vaccin Indovac COVID-19 produit par Biopharma SA Une entreprise publique indonésienne a reçu un certificat halal de l'agence organisatrice de l'assurance des produits halal. Ce vaccin sera exporté vers divers pays. Le directeur principal de Biopharma SA, Honesty Bashir, veuille à ce que l'ensemble du processus et de la chaîne de production des vaccins Indovac, des matières premières et de la transformation au produit fini répondra aux exigences des produits halal. Pendant ce temps, les données sur la qualité, la puissance, le processus de production de la substance active, le produit fini et la stabilité sont également conformes aux politiques de la Food and Drug Administration. Selon lui, la certification halal est l'un des avantages l'Indovac sur le marché mondial après avoir obtenu la liste d'utilisation d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé. Le ministère indonésien des Affaires étrangères a organisé le Forum des Affaires Indonésie-Amérique latine et Caraïbes 2022 à Tangerang, Banten, les 17 et 18 octobre 2022. Le directeur général pour l'Amérique et l'Europe du ministère indonésien des Affaires étrangères, Umar Hadi, dans une conférence de presse a expliqué: la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, dans son allocution par message vidéo, elle a déclaré que l'Indonésie a une grande opportunité d'augmenter les exportations dans les régions d'Amérique latine et des Caraïbes. Le 18 octobre, à la suite de la tragédie de Kanjuruhan, le président Joko Widodo a rencontré le président de la Fédération internationale de football, FIFA, Gianni Infantino, au Palais Merdeka, Jakarta. Au cours de la réunion, Infantino a déclaré que la FIFA était prête à soutenir le football indonésien en tant que sport le plus populaire du pays. La FIFA soutient ce sport pour qu'il devienne la fierté du peuple et devienne l'un des piliers qui contribue au progrès de la nation. Le 24 octobre, le président Joko Widodo a reçu la visite du premier ministre palestinien Mohamed Stayeh au palais présidentiel de Bogor à Java occidental. Dans son allocution, le président a souligné que l'Indonésie continuera à soutenir la lutte du peuple palestinien pour avoir l'indépendance. Chers auditeurs, nous continuons au mois de novembre. Le 13 novembre, symboliquement, le président Joko Widodo a reçu un marteau du premier ministre cambodgien Hun Sen, un signe que l'Indonésie est devenue la présidence de l'ASEAN. L'Indonésie deviendra la présidence de l'ASEAN en 2023. La passation de la présidence a eu lieu lors de la cérémonie de clôture des 40e et 41e sommets. Le président Joko Widodo a déclaré que la présidence indonésienne ferait de ASEAN Matters Epicentrum of Growth. L'ASEAN compte épicentre de la croissance. Le 15 novembre, le président Joko Widodo a officiellement ouvert la réunion du sommet du G20 à La Purwa Kempinski, Bali. Dans son allocution, le président a mentionné que le monde connaît actuellement des défis extraordinaires, à commencer par la crise, la pandémie inachevée de COVID-19, des rivalités de plus en plus vives et la guerre. Ce défi a entraîné une crise de la sécurité alimentaire, énergétique et financière. Selon le président, la réunion au sommet du G20 ne doit pas échouer et doit réussir à devenir une solution aux différents défis du monde d'aujourd'hui. Le président a déclaré que l'Indonésie, en tant que pays démocratique, est consciente de l'importance du dialogue pour concilier les différences. Le président Joko Widodo a également souligné que tous les pays du G20 ont une responsabilité, pas seulement envers leurs citoyens respectifs, mais aussi envers les peuples du monde entier.
Being responsible means respecting international laws and principles of the UN Charter consistently.
Être responsable signifie respecter systématiquement le droit international et les principes de la Charte des Nations Unies. Être responsable signifie créer une situation gagnant-gagnant, pas une situation à somme nulle. Prendre nos responsabilités ici signifie également que nous devons mettre fin à la guerre. Si la guerre ne se termine pas, il sera difficile pour le monde à avancer. Si la guerre ne s'arrête pas, il nous sera difficile d'assumer la responsabilité de l'avenir des générations présentes et futures. Nous ne devrions pas diviser le monde en parties. Nous ne devons pas laisser le monde sombrer dans une nouvelle guerre froide. En outre, le président Joko Widodo a également exprimé son espoir que le G20 puisse continuer à être un catalyseur pour une reprise économique inclusive. Au milieu de la situation difficile actuelle, le président a souligné l'importance pour le G20 de continuer à travailler pour produire des résultats concrets. À la fin de son allocution, le président a invité tous les pays membres du G20 à travailler ensemble pour que le monde se redresse ensemble et se redresse plus fort. Le 16 novembre, le président Joko Widodo a officiellement clôturé le sommet du G20 2022. Qui s'est tenu à Bali pendant 2 jours, les 15 et 16 novembre. Selon le président, la présidence indonésienne du G20 en 2022 a commencé avec l'espoir d'unir une intention commune dans une reprise mondiale inclusive après une pandémie. Le président a déclaré qu'en tant que président du G20, l'Indonésie avait recherché les meilleures solutions au cours d'une année de leadership au milieu de divers nouveaux défis qui s'étaient posés. Le président est reconnaissant. Le G20 Indonésie a produit un document sous la forme de la déclaration des dirigeants du G20 de Bali.
Alhamdulillah, hari ini kita dapat mengadopsi dan mengesahkan G20 Bali Leaders.
Alhamdulillah, aujourd'hui, nous pouvons adopter et ratifier la déclaration des dirigeants du G20 à Bali. Il s'agit de la première déclaration qui peut être réalisée depuis février 2022. J'exprime ma plus haute gratitude à tous ceux qui y ont participé, ce qui lui a donné de la souplesse avant que la déclaration puisse être acceptée et ratifiée. En plus de la déclaration, la présidence indonésienne a également produit des livrables concrets qui contenaient une liste de projets de coopération pour les pays membres du G20 et des invitations. Selon le président Joko Widodo, ce projet de coopération contribuera à rapprocher les travaux du G20 des citoyens.
Memastikan G20 bermanfaat tidak saja untuk anggotanya.
Veillez à ce que le G20 profite pas seulement à ses membres, mais aussi au monde et en particulier aux pays en développement. Récupérons ensemble, récupérons plus fort. Le président Joko Widodo a également exprimé sa gratitude à tous les groupes de travail et groupes d'engagement qui ont été très dévoués et ont apporté des idées et des contributions à la présidence indonésienne du G20. Le 18 novembre, le président Joko Widodo a appelé les dirigeants des pays de la coopération économique Asie-Pacifique ou APEC à renforcer la coopération concrète au milieu de la série de crises mondiales auxquelles ils ont confronté, que ce soit dans les domaines de l'alimentation, de l'énergie, de l'environnement ou la menace d'une récession. Le président, lors de l'intervention de la session 1 de la réunion des dirigeants économiques de l'APEC à Bangkok, en Thaïlande, a déclaré qu'à court terme, la collaboration est absolument nécessaire pour vaincre l'inflation et assurer la sécurité alimentaire. Le sommet annuel des dirigeants de l'APEC s'est déroulé pendant 2 jours, les 18 et 19 novembre, à Bangkok, et s'est concentré sur la gestion de la flambée des prix des denrées alimentaires et de l'énergie due à la guerre russo-ukrainienne. Les dirigeants de l'APEC ont également discuté des efforts pour parvenir à une croissance inclusive et durable dans la région Asie-Pacifique. Le lancement d'une missile balistique intercontinentale par la Corée du Nord qui est tombée à l'intérieur de la zone économique exclusive du Japon a également attiré l'attention sur le sommet de l'APEC, le forum qui compte 21 membres, dont l'Indonésie. Le 24 novembre, le ministre coordinateur des Affaires économiques de la République d'Indonésie, Erlang Hartanto, a participé virtuellement à la 9e exposition halal de l'Organisation de la coopération islamique et au 8e sommet mondial halal à Istanbul, en Turquie. Le ministre Erlang a déclaré que les micro, petites et moyennes entreprises et les domaines stratégiques économiques ont joué un rôle important dans la réalisation de la vision de l'Indonésie de devenir une plaque tournante mondiale du halal en 2023. Toujours à la même date, le ministre indonésien des entreprises publiques, Erick Thohir, a déclaré que le vaccin Indovac, produit par Bio Pharma SA, est la preuve que l'Indonésie est capable d'être indépendante dans le secteur national de la santé avec ses propres vaccins. L'Indonésie peut réduire sa dépendance aux importations de vaccins, voire l'arrêter car elle est déjà capable de produire elle-même. Indovac est le fruit d'une collaboration entre la holding pharmaceutique publique et le Baylor College of Medicine des États-Unis. Nous continuons au mois de décembre 2022. Le président Joko Widodo a souligné que l'Indonésie continue d'améliorer le bien-être et l'accessibilité pour les personnes handicapées. Le président Joko Widodo, sur son compte Instagram, @jokowi, le 3 décembre a déclaré que l'Indonésie avait déjà une commission nationale sur les handicaps et a également les règlements présidentiels qui contient l'esprit d'améliorer continuellement le bien-être, les opportunités et l'accessibilité pour les personnes handicapées. L'Indonésie a de nouveau organisé le forum AIS des États archipélagiques et insulaires à Nusa Dua, Badung, Bali, les 5 et 6 décembre 2022. Délimitation adjointe par intérim des zones maritimes et des zones frontalières ministères de la coordination des affaires maritimes et de l'investissement, Sora Lokita a expliqué. Au forum AIS, les pays s'engagent à former une coopération concrète sur les questions qui préoccupent les pays insulaires et archipels, à savoir l'adaptation et l'atténuation du changement climatique, l'économie basée sur la mer ou l'économie bleue, les déchets plastiques en mer et la bonne gouvernance des océans. Le Forum AIS est une plateforme de coopération concrète formée pour accueillir 47 pays insulaires et archipels du monde. Du 5 au 8 décembre 2022, le chef de l'Agence de météorologique, de climatologique et de géophysique, Dwi Korita Karnawati a mené une enquête pour tracer les traces des failles et mesurer les fissures à l'endroit qui serait l'épicentre du tremblement de terre de Cianjur. Dwi Korita Karnawati a déclaré un tremblement de terre de magnitude 5,6 qui s'est produit le 21 novembre dernier à 13h21. 10 secondes heure de l'ouest de l'Indonésie, dans la région de Cianjur, province de Java occidental. Un nouveau changement de faille appelé la faille de Chugenang a été déclenché. La faille s'étend sur 9 km à travers 9 villages de 2 sous-districts. Le 8 décembre, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a officiellement ouvert le 15e Forum de la démocratie de Bali, BDF, à Nusa Dua, Bali. Dans son allocution, la ministre Retno a mentionné « Le 15e Forum de la démocratie de Bali a pris pour thème la démocratie dans un monde en mutation. Leadership et solidarité ». Un certain nombre d'institutions internationales ont fait état d'une démocratie en déclin et stagnante. Selon la ministre Retno, ce thème est pertinent pour la situation mondiale qui fait face à des défis pour la démocratie.
Dan guna menghadapi tantangan tersebut, diperlukan sebuah leadership. Leadership collective, leadership.
Pour faire face à ce défi, un leadership collectif fort et efficace et une solidarité mondiale sont nécessaires. La présidence indonésienne du G20 a montré qu'un leadership et une solidarité très forts sont effectivement nécessaires dans le monde aujourd'hui. Des valeurs démocratiques telles que l'inclusivité et le dialogue sont les principes directeurs de l'Indonésie dans l'exercice de la présidence du G20. Afin que les résultats soient bons dans un climat de pessimisme élevé à l'époque. À la clôture de la 15e BDF à midi le 8 décembre, le directeur général de l'information et de la diplomatie publique du ministère des Affaires étrangères d'Indonésie, Teuku Faiza Shah, a déclaré que le processus de BDF avait apporté une contribution positive, notamment en assurant la mise en œuvre de démocratie. Le BDF s'est positionné comme le principal forum de discussion et d'échanges d'expériences en matière de promotion de la démocratie dans la région d'Asie-Pacifique. Le 15e Forum de la démocratie de Bali s'est tenu de manière hybride et a réuni 323 participants de 112 pays et 5 organisations internationales. Toujours à la même date, après la clôture du 15 BDF, l'Indonésie et le Qatar ont co-présidé la réunion de la Conférence internationale sur l'éducation des femmes afghanes qui s'est tenue à Nusa Dua, Bali. La réunion a produit un document de déclaration conjointe appelé le Bali Message. Dans ce document, tous les participants ont convenu de faire des efforts sérieux et des actions concrètes pour élargir les opportunités et l'accès des femmes et des filles afghanes à bénéficier de l'éducation formelle à tous les niveaux et de diverses méthodes d'apprentissage. Le 9 décembre, le ministre de l'Intérieur a inauguré la Papouasie du Sud-Ouest en tant que nouvelle province en Indonésie. Avec cette inauguration, l'Indonésie compte désormais 38 provinces. Le ministre de l'Intérieur, Tito Karnavian, a déclaré formation de la province de Papouasie du Sud-Ouest avec 3 autres nouvelles régions autonomes en Papouasie. Fait partie d'un effort visant à accélérer la répartition équitable du développement et du bien-être du peuple papou. Selon le ministre, la formation et l'inauguration de la province de Papouasie du Sud-Ouest ont également été réalisées sur la base des aspirations du peuple papou. Le 12 décembre, le vice-ministre du Droit et des Droits de l'Homme, Edward Omar Sharif Hiarij, a déclaré que les touristes étrangers n'ont pas à s'inquiéter de venir en Indonésie après l'adoption du nouveau code pénal par le Conseil représentatif du peuple de la République d'Indonésie. En une conférence de presse au ministère indonésien des Affaires étrangères à Jakarta, il a expliqué que les touristes étrangers ne seront pas accusés d'articles de cohabitation parce que les articles de cohabitation sont un délit absolu de plainte.
Wisatawan tidak akan bisa dijerat dengan pasal ini. Mengapa? Ketika mereka ya sepasang datang berlibur ke Indonesia, ya.
Les touristes ne seront pas facturés avec cet article. Pourquoi? Quand un couple d'entre eux est venu en vacances en Indonésie, ils n'étaient pas légalement mariés. Il n'y avait que 2 possibilités qui devaient se plaindre. Leurs enfants ou leurs parents qui, accessoirement, n'étaient pas en Indonésie, étaient à l'étranger, là-bas. Donc, c'était un vrai souci excessivement qui ne comprennent pas le contenu de l'article sur la cohabitation. Le 13 décembre, le Conseil représentatif du peuple indonésien a officiellement autorisé le chef d'état-major de la marine, l'amiral Yudo Margono, à devenir le commandant des forces armées nationales indonésiennes TNI, en remplacement du général Andika Perkasa. Président du Conseil représentatif du peuple, Puan Maharani, espère que l'amiral de TNI, Yudo Margono, a pu apporter des performances des institutions TNI s'améliorent pour renforcer et maintenir l'état unitaire de la République d'Indonésie. Le 14 décembre, le président Joko Widodo a déclaré « Si les pays membres de l'ASEAN et l'Union européenne veulent construire un meilleur partenariat, alors le partenariat doit être fondé sur l'égalité. Il ne doit y avoir aucune coercition. » Cela a été souligné par le président Joko Widodo dans ses remarques tout en participant au sommet de partenariat ASEAN-Union européenne. À l'occasion du 45e anniversaire à Bruxelles, en Belgique. Il ne devrait y avoir aucune coercition. Il ne devrait y avoir aucune partie qui dicte et suppose toujours que mon standard est meilleur que le vôtre. Toujours le 14, en marge du 45e sommet de commémoration du partenariat ASEAN et Union européenne à Bruxelles, le président Joko Widodo a tenu une réunion bilatérale avec le premier ministre des Pays-Bas, le premier ministre tchèque, ainsi que le premier ministre de la Suède. Lors de la réunion bilatérale, le président Joko Widodo a souligné les politiques discriminatoires de l'Union européenne et a entravé les exportations de matières premières de l'Indonésie. Un tremblement de terre a de nouveau secoué l'Indonésie. Après s'être produit dans plusieurs régions, le 17 décembre à 14h50, heure de l'ouest de l'Indonésie, un tremblement de terre d'une magnitude de 5,2 a secoué Sumur, Banten. Le point épicentre est à 6,23 latitude sud et 105,08 la longitude S ou à 73 km depuis de mer à l'ouest, à une profondeur de 10 km. Chers auditrices et auditeurs, c'est tout le Kaléidoscope 2022.
Menunggu cerah rindu dan kau. waktu kau tinggalkan segaris warna hitam biru dan memori itu berulang. Aku menunggu kembali pacaku. Aku menunggu kembali pacaku. Aku
chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute! Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de Magazine Culturel avec moi Audrey. Aujourd'hui je vais vous présenter Susur Sungai Kalimas, suivra la rivière Kalimas. Chers auditeurs, Kalimas, c'est une rivière située au cœur de Surabaya à l'est de Java. La rivière est plus belle avec une atmosphère romantique. Les berges sont soigneusement aménagées par le gouvernement de la ville de Surabaya. Pour ceux d'entre vous qui visitent Surabaya, c'est un complet si vous n'avez pas goûté à l'exotisme de tourisme air Kalimas. Le conseil touristique proposé est assez intéressant car il combine les conseils des destinations touristiques culinaires, éducatives, commerciales et historiques que vous pourrez apprécier en vous promenant le long de la rivière Kalimas. En plus d'offrir le conseil de tourisme aquatique, le gouvernement de la ville de Surabaya complète également la rivière Kalimas avec un certain nombre de divertissements qui peuvent être appréciés, à partir de la musique de saxophone, des achats pour les micro-petites et moyennes entreprises, au marché flottant, aux performances musicales en direct sur les bateaux. Fait intéressant le long de la route touristique, le gouvernement municipal l'embellit avec des peintures colorées et des lanternes. Le conseil de tourisme présente également une atmosphère comme à Singapour sur les canaux de croisière comme Venise en Italie. Pour ceux d'entre vous qui veulent ressentir la sensation du tourisme Air Kalimas, vous pouvez facilement commander des billets en ligne sur la page ticketwisata.surabaya.co.id. Là, vous pouvez déterminer les jours et les heures de visite touristique. Si le billet a été commandé en ligne, il sera échangé à l'embarcadère du voyage organisé et sélectionné. Kalimas Boat Tour est ouvert de 15h à 21h, heure locale. Pendant ce temps, plus précisément le week-end, les visites sont ouvertes du matin au soir. Deux forfaits sont proposés, le forfait long et le forfait court. Sur le forfait long trajet, à savoir Mont-Cassel, Siola, aller-retour. Avec un prix du billet de 10 000 de roupies, cela comprend l'entrée au monument sous-marin Mont-Cassel, ainsi qu'un arrêt au musée de l'éducation. Passez également devant la fontaine de la statue de Surabaya et le parc skate et BMX jusqu'au marché flottant. Pendant ce temps, sur des trajets courts avec un prix de billets de 4 000 de roupies depuis Achievement Plan. Depuis Achievement Park, c'est Museum of Education, le musée de l'éducation. Les passagers traverseront le marché flottant. Dans ce forfait, les emplacements d'échange de billets peuvent être effectués à la jetée de Taman Prestasi à partir de 15 heures, heure locale. Actuellement, le gouvernement municipal fournit sept bateaux pour transporter les passagers sur le tourisme Air Kalimas. Chacun des bateaux peut transporter 10 à 12 passagers à la fois. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Le magazine culturel. Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
<t'->
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur, intitulée ITS innove dans le traitement des déchets liquides industriels de tofu en cuir synthétique. Vous êtes avec moi, Audrey. Cher Jouitard, un traitement inapproprié des déchets industriels de tofu peut causer de nombreux problèmes environnementaux. Partant de là, la communauté universitaire de l'Institut de technologie de 10 novembre ITS a lancé une innovation pour traiter le problème des eaux usées industrielles de tofu en quelque chose de plus utile. Comme le cuir synthétique, dans un premier temps, cette innovation a été appliquée dans le village de Sambiroto, Mojokerto, pour pouvoir répondre aux problèmes concernant les déchets industriels de tofu dans la région. Selon le chef d'équipe Indartri Cahyani, cette innovation contribue également à responsabiliser la communauté environnante. Inda et l'équipe ont innové un système afin que la communauté puisse traiter elle-même les eaux usées industrielles du tofu. Inda a expliqué qu'au départ, la communauté demanderait aux propriétaires de l'usine les déchets liquides de l'industrie du tofu en fonction de la dose requise. Après avoir obtenu les déchets liquides de l'industrie du tofu, la communauté traitera les déchets. Le traitement est effectué en faisant bouillir les déchets liquides industriels de tofu avec l'ajout de certains produits chimiques. Les produits chimiques utilisés comprennent du sucre, du vinaigre, des engrais à base d'urée de qualité alimentaire mélangés à des bactéries acétobactères, Silinu. En outre, Inda a également expliqué que cette innovation avait également été organisée de manière à faciliter la tâche de la communauté. La commodité peut être vue dans les détails du dosage des produits chimiques utilisés. De plus, avec l'aide d'organisations de jeunesse locales, Inda et l'équipe ont également organisé une formation pour la communauté afin de clarifier le flux de traitement des déchets. Le produit initial du processus d'ébullition des déchets liquides est le nata de soja, un type d'aliment fabriqué à partir de déchets liquides industriels de tofu. Pour devenir un cuir synthétique, le nata de soja doit être traité à nouveau en éliminant le teneur en eau. Après avoir fabriqué un produit brou sous forme de cuir synthétique, une formation sera dispensée aux artisans du cuir synthétique afin qu'ils puissent transformer la matière première en matériaux à valeur marchande, tels que des portefeuilles et des sacs. Bon chargé tard, c'est tout. L'Indonésie en couleur. Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde, avec moi Audrey. Ce soir, dans la rubrique magazine musical, je vais vous présenter une chanson de Cirebon intitulée Kota Cirebon. Chers amis, cette chanson raconte la beauté de la ville de Cirebon qui est située sur la côte et se trouve dans la zone frontalière entre le centre de Java et l'ouest de Java, et a valu le surnom de ville de la crevette. Bon, chers auditeurs, voici Diana Sastra va chanter une chanson de Cirebon intitulée Kota Cirebon. Bonne écoute. Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.